E a tutta? L'heure est bien avancée. Je vous promets pas de prêcher comme un Suisse. Je vous promets pas. Nous serions en Suisse, à midi je terminerai, mais nous sommes en France. Donc c'est la suite du message que j'ai apporté il y a, je pense, un petit mois, où je parlais que, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher selon notre vocation céleste. Donc nous avons vu deux grandes vérités dans ce message. D'abord, marcher avec Dieu et être en communion avec Dieu vont ensemble. Je ne peux pas dissocier ma marche d'avec ma communion avec Dieu. Deuxièmement, marcher selon l'évangile. Pour marcher selon l'évangile, il faut être en communion avec Dieu. Je ne peux pas vivre selon les principes de la Bible si je ne désire pas demeurer dans la communion avec Dieu. Donc ça, c'était le grand point. Et le deuxième point que nous avons vu la dernière fois, c'est que Dieu ne me laisse jamais seul pour marcher avec lui. Il m'accorde sa grâce parce que marcher avec Dieu, c'est marcher sur le chemin étroit avec ses difficultés et ses tentations. Marcher avec Dieu, c'est aussi marcher à contre-courant de ce monde. Donc c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Maintenant, il y a une grande question à se poser. Comment se manifeste notre marche avec Dieu? Comment puis-je savoir que je marche avec Dieu? Quels sont les critères qui définissent ou qui indiquent que je marche avec Dieu? Comme texte de base, nous allons lire ensemble dans la première épître de Jean. Une épître que le pasteur Jean-Claude a beaucoup travaillé. Une épître qui est très riche. Donc, la première épître de Jean, chapitre 3. Donc, c'est vers la fin du Nouveau Testament que vous devez trouver aisément, n'est-ce pas? Pas de problème. Jean chapitre 3. Les versets 8 à 10. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que nous connaissons, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Naturellement, il y a plusieurs critères qui définissent le chrétien. Mais dans notre thème à nous, l'apôtre Jean nous dit que les deux critères fondamentaux qui soulignent notre marche avec Dieu, c'est pratiquer la justice et aimer son frère. Que signifie pratiquer la justice? C'est faire tout ce qui est juste. C'est faire tout ce qui mérite l'approbation de Dieu. C'est accomplir les œuvres qui honorent le Seigneur. C'est faire la volonté de Dieu. C'est mettre en pratique sa parole. C'est obéir à sa loi. Mais que veut dire obéir à la loi de Dieu? ne pas la transgresser, mettre en pratique sa loi. Obéir à la loi de Dieu, c'est ne pas pécher. Et qu'est-ce que le péché ? La Bible nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Hein, au verset 3. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Si pratiquer la justice, c'est faire ce qui est juste, comment savoir que ce que je fais est juste ? Sur quels critères je dois me baser pour dire que ce que je fais est juste ? La réponse est la parole de Dieu. Mais il y a un problème. Si je ne connais pas la parole de Dieu, comment puis-je savoir que ce que je fais est bon ou pas ? Il y a la conscience. Mais problème, la conscience est entachée de péché. La conscience de l'homme n'est pas fiable. Elle est marquée par l'empreinte du péché. Maintenant, j'entends bien souvent les jeunes, mais aussi les moins jeunes, que lorsque quelqu'un fait une grosse bêtise, on dit que cette personne n'a plus de cerveau. Ça, vous l'entendez ? Moi, en tout cas, moi, je l'entends depuis quelques temps maintenant. Hein ? On dit que la personne, elle n'a pas de cerveau. Ou cette personne est folle. Hein, il est fou. Il ne réfléchit pas. Alors qu'en réalité, il a bien un cerveau, mais il n'a plus de confiance. Il n'a plus de conscience. Sa conscience ne fonctionne plus. À cause du péché. Et il serait judicieux de dire à cette personne qui fait une grosse bêtise, mais il n'a pas de conscience. Dieu a donné à l'homme une conscience pour l'aider à réfléchir sur ses actes afin de prendre le bon chemin, pour l'aider à choisir entre le bien et le mal. Mais malheureusement, l'homme n'est plus éclairé par cette conscience entachée par le péché. Donc l'homme doit revenir au critère fondamental de jugement qui est la parole de Dieu. D'où l'importance pour le chrétien, pour l'homme, non seulement de lire la Bible, mais de l'étudier. Nous connaissons tous ce passage qui nous dit dans 2 Timothée 3, 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour éduquer, pour redresser et pour corriger, pour instruire la justice. Donc la parole de Dieu a cette vocation de m'instruire dans la justice. D'où l'importance pour moi de connaître cette parole pour pouvoir pratiquer la justice. Seule la parole de Dieu peut m'aider à vivre une vie juste. Dieu est fondamentalement juste. Ce qu'il dit, ce qu'il demande, ce qu'il attend de moi, de chacun de nous, est juste. Si nous regardons à lui et faisons ce qu'il nous demande, alors ce que nous faisons est juste. Si je regarde à ce que Dieu me demande de faire et que je le fais, mes amis, ce que je fais est juste. Parce que Dieu est fondamentalement juste. Pratiquer la justice, c'est quoi ? Hein, il est dit : quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Celui qui pratique la justice est de Dieu. Alors c'est quoi pratiquer la justice ? Pratiquer la justice, il me semble que c'est avoir l'habitude de faire la justice. C'est rechercher une vie justice. Aspirer à une vie juste. Désirer vivre une vie qui plaise au Seigneur. Soupirer à une existence qui glorifie le Seigneur par mon comportement, mais aussi par mes actes. Pratiquer la justice, mes amis, ce n'est pas vivre une vie occasionnelle de justice si tout va bien. Si je n'ai pas de problème, si je suis riche, si personne ne m'importune, alors je vais pratiquer la justice. Non, ce n'est pas ça. Pratiquer la justice, c'est la volonté de choisir ce qui est vrai et juste, même si cela me coûte. Même si je ne comprends pas tout, je choisis de vivre une vie qui plaise au Seigneur. Pratiquer la justice, ce n'est pas pratiquer quelquefois la justice ou faire un petit peu de justice. Pas trop pour ne pas être trop dérangé par les autres. On pourrait dire faire le minimum syndical. Non, ce n'est pas ça, là, pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est une manière de vivre. C'est un mode de vie. Notre Seigneur Jésus-Christ a pratiqué la justice du début jusqu'à la fin. C'était sa manière de vivre. C'était son mode d'existence. Et lorsque la parole de Dieu me demande de pratiquer la justice, c'est de rechercher ce mode de vie. Je dois vouloir vivre une vie qui plaise au Seigneur. Amen. Et le peuple de Dieu a dit amen. Je dois choisir un style de vie qui plaise au Seigneur. Et c'est un critère fondamental qui m'amène à prendre conscience que marcher avec Dieu se manifeste par ma pratique de la justice. Lorsque je pratique la justice, je n'ai pas le temps de pratiquer le péché. L'apôtre Jean n'a jamais dit que le chrétien ne pourrait pas pécher ou qu'il est immunisé contre le péché. L'apôtre Jean et aucun apôtre n'a prêché la perfection sur cette terre. Tant que le chrétien est encore dans ce corps mortel, il est enclin au péché. Par contre, ceci est important pour le chrétien, c'est de savoir que la semence de Dieu en lui l'immunise contre la pratique du péché. Deuxièmement, le chrétien doit savoir que s'il a péché, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Aucun apôtre n'a prêché la perfection. Bien que nous devons tendre vers la perfection avec la grâce de Dieu. Mais tant que je suis sur cette terre, malheureusement, je suis enclin au péché. C'est pourquoi pour l'apôtre Jean, le critère d'appartenance à Dieu n'est pas le fait de ne pas pécher, mais de pratiquer la justice. Et c'est quoi pratiquer la justice ? Et c'est quoi pratiquer le péché ? En opposition à pratiquer la justice. Oui, pratiquer la justice, ce n'est pas occasionnel, c'est un mode de vie, c'est un comportement, c'est une volonté de choisir de vivre comme cela. Par opposition, pratiquer le péché, c'est vivre dans l'habitude du péché. C'est vivre une vie où un ou plusieurs péchés ont pris le dessus sur moi au point où je ne peux plus m'en sortir. Vivre une vie où le mot péché n'a plus aucun sens pour moi, où je ne réalise plus la gravité du péché. Le péché est devenu tellement banal dans ma vie qu'il ne veut plus rien dire pour moi. C'est ça pratiquer le péché, vivre dans le péché, vivre dans un esclavage du péché. C'est différent de pécher occasionnellement. C'est différent de tomber. La parole de Dieu nous dit que le juste tombe 6 fois, 7 fois le Seigneur le relève. Amen. En tant que chrétien, mes amis, si nous tombons, nous avons auprès du Père l'avocat, Jésus-Christ le juste, qui nous relève. Amen. Le critère fondamental d'appartenance au Seigneur, ce n'est pas le fait de ne pas pécher, mais de pratiquer la justice. Pratiquer la justice. C'est pourquoi Seul le Saint-Esprit est capable de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Hein. Jean 16, versets 8 à 11. Parce que lorsque je suis dans le péché, lorsque le péché a pris le pouvoir sur moi, seul le Saint-Esprit est capable de m'en libérer en m'éclairant par la parole de Dieu, en me montrant le sang du Christ à la croix. Sans l'œuvre de l'Esprit, sans l'œuvre de conviction du Saint-Esprit dans mon cœur, je reste dans mon péché, mes amis. C'est pourquoi, aux yeux de l'apôtre Jean, pratiquer la justice est bien plus grand que ne pas pécher. Bien que la parole de Dieu nous encourage, nous exhorte tous à rechercher la perfection, c'est-à-dire à rechercher une vie qui plaise au Seigneur, dans tous les domaines, bien sûr. Le chrétien est appelé à vivre une vie de justice, non pas en comptant sur ses propres moyens, mais en se confiant, en se fortifiant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée 2, verset 1. En effet, seule la grâce du Seigneur Jésus-Christ pourrait me donner la force de résister au péché, mais aussi de pratiquer la justice. Premier critère qui manifeste ma marche avec Dieu, c'est ma pratique de la justice. Deuxièmement, l'apôtre Jean nous dit quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. On revient au thème fondamental de la Bible, qui est l'amour. L'amour comme étant un critère fondamental de notre marche avec le Seigneur. Aimer son frère, c'est accomplir la loi. Romains 13, verset 8. Le devoir d'aimer. Ne devez rien d'autre sinon de vous aimer. Le devoir d'aimer. Accomplir la loi, c'est faire la volonté de Dieu. C'est obéir à sa parole. Lorsque j'accomplis la loi, j'obéis à la parole du Seigneur. Aimer son frère. Mais pour aimer son frère, il faut le reconnaître comme tel. Si je ne le reconnais pas comme mon frère, comment puis-je l'aimer? Il faut reconnaître que mon frère est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 1. Reconnaître qu'il est né de Dieu, c'est-à-dire accepter qu'il est sauvé par la même grâce que moi. Accepter qu'il a autant de valeur aux yeux de Dieu que moi. Accepter que Dieu a un plan merveilleux pour lui. Admettre que Dieu prendra soin de lui comme il prend soin de moi. Accepter qu'il passera l'éternité avec moi à adorer le Seigneur Tout-Puissant. Si je ne reconnais pas mon frère, comment puis-je l'aimer? Comment puis-je ouvrir mon cœur à lui si je ne le reconnais pas comme mon frère, comme étant celui qui est né de Dieu au même titre que moi? Mais pour aimer mon frère, il faut aussi que je passe du temps avec lui pour apprendre à le connaître. Comment puis-je aimer mon frère si je n'apprends pas à le connaître en passant du temps avec lui? Parce que c'est en le découvrant que je pourrai apprendre à savoir qui il est. Pas dans un esprit de curiosité malsaine, mais dans un amour fraternel. Comment pourrais-je l'aider, prier pour lui, l'accompagner dans ses difficultés, si je n'apprends pas à le connaître, à passer du temps avec lui? Ce qui me frappe, c'est l'exemple des premiers chrétiens. Les tout premiers chrétiens, mes amis. Dans Actes chapitre 2, verset 42, que nous connaissons tous, mais que nous avons du mal à vivre. C'est une chose de connaître, mais c'en est une autre de vivre ce que nous connaissons. Nous le connaissons tellement bien ce passage que nous sommes prêts et capables de le citer par cœur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans un des piliers de la vie chrétienne, la communion fraternelle. Ils persévéraient, ce n'était pas occasionnel, mais c'était pratiquement tous les jours. Ils persévéraient à être ensemble. Mais pourquoi ils persévéraient à être ensemble? Parce qu'ils aimaient être ensemble, mes amis. Si je n'aime pas être ensemble avec mon frère, mais je ne vais pas chercher à être avec lui. Les premiers chrétiens aimaient être ensemble. Parce qu'ils avaient compris qu'ensemble, ils faisaient partie de la famille de Dieu. Ensemble, ils étaient plus forts. Ensemble, ils étaient unis. Ensemble, ils manifestaient l'unité en Jésus-Christ, mais aussi l'amour du Seigneur. Aimer Dieu, c'est ce que la Bible me demande. Mais aimer Dieu se manifeste par mon amour pour mon prochain. Comment puis-je montrer que j'aime Dieu sinon en aimant mon frère, celui que je vois, celui que j'apprends à connaître, celui que j'apprends à passer du temps avec? Vous savez, dans notre monde moderne, il est très facile, mes amis, de passer du temps ensemble. Il est aussi très facile de s'ignorer. Très facile. C'est à nous à choisir. Et il y a tellement de petites occasions qui nous sont données pour apprendre à nous connaître, pour apprendre à passer du temps ensemble. Il y a tellement de petites occasions à saisir. Aimer son frère est le critère de mon amour pour Dieu. Mais aimer son frère, mes amis, ce n'est pas faire des bisous matin, midi, soir, c'est pas ça. Sans l'exclure, bien sûr. Mais aimer son frère, c'est se mettre à son service. Aimer son frère, c'est chercher à connaître ses besoins, ses difficultés, ses peines, ses joies. Prendre du temps avec. Aider de manière pratique. Et c'est ainsi qu'on peut manifester notre amour pour le Seigneur. Ne pas fermer son cœur, ne pas fermer son œil sur son frère. Et lorsque l'apôtre Jean nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'est pas de Dieu, c'est pas, il ne parle pas de l'amitié. L'apôtre Jean ne parle pas de l'amour humain. Il parle de l'amour divin, l'amour manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que la Bible m'exhorte à aimer mon frère comme Christ m'a aimé. Christ a été jusqu'à la croix pour moi. Je dois être prêt aussi à aller jusqu'à la croix pour mon frère. Mais nous savons tous que humainement parlant, c'est impossible. Déjà pour son conjoint, on va réfléchir deux fois. Mais c'est ce que la Bible demande. Mais nous avons tous compris aussi que c'est avec la grâce du Saint-Esprit, c'est avec l'amour du Seigneur, c'est avec l'accompagnement de son Esprit que je peux, que j'ai la possibilité d'aimer mon frère comme Dieu me le demande. De même que j'ai besoin du Saint-Esprit pour pratiquer la justice, De même, j'ai besoin du Saint-Esprit pour aimer mon frère, comme Dieu l'entend, comme Dieu l'attend de moi, comme Dieu me le demande. En tant que chrétien, vous et moi, nous avons tous besoin de l'assistance de l'Esprit de Dieu pour nous accompagner sur le chemin de l'amour et de la justice. Pour conclure, parce qu'il faut conclure, ceux qui ne pratiquent pas la justice ne sont pas de Dieu. Il n'existe pas de position intermédiaire. Nul ne peut être à moitié enfant de Dieu et à moitié enfant du diable. Je dois prendre position, mes amis. Je dois choisir qui est-ce que je veux suivre. Quel est mon modèle de vie? Deuxièmement, les enfants de Dieu se reconnaissent par une vie juste et remplie d'amour pour leurs frères. Et troisièmement, pour terminer, nous avons tous besoin du secours du Saint-Esprit pour vivre comme Dieu le souhaite pour chacun d'entre nous. En tant que chrétien, Dieu m'appelle à vivre selon la vocation céleste qui m'est adressée. En tant que chrétien, je dois marcher avec le Seigneur. Je ne peux pas dissocier dans ma vie ma communion avec Dieu de ma marche avec le Seigneur. C'est un ensemble. Dieu m'accorde la grâce de son esprit pour m'accompagner jour après jour sur le chemin étroit. La vie chrétienne, c'est un chemin étroit. Je manifeste que je marche avec Dieu en pratiquant la justice et en aimant mon frère. Le Saint-Esprit m'est donné comme soutien, comme secours, comme assistance pour m'aider sur le chemin de la vie, pour m'aider à marcher avec Dieu jusqu'au bout. Amen. Que Dieu nous bénisse et que nous accorde la grâce de toujours dépendre de son esprit. Amen.